Le MAG se met à l'heure uruguayenne tous les lundis jusqu'à fin février. Nous allons recevoir une petite chronique uruguayenne signée Adrian qui nous les envoie depuis là-bas où il vadrouille. Voilà, donc vous connaissez peut-être pas bien ce petit pays hein, coincé entre les deux mastodontes que sont le Brésil et l'Argentine. Eh bien, ce sera l'occasion. Donc, on va entamer maintenant la première de ces chroniques. Et puis, tous les lundis, vous pourrez vous prendre un petit shoot d'Uruguay dans le MAG sur Canal Sud.
Salut. Señoras, señores.
Hola a todas y todos.
Hay que ver que es un país que tiene 3 millones de habitantes. Es un barrio de San Pablo. Un barrio.
Bienvenidos a Uruguay.
Les chroniques uruguayennes d'Adrien.
Le lundi, le MAG de Canal Sud se met à l'heure uruguayenne.
República Oriental del Uruguay.
Hola a todas y todos. Bienvenue pour cette première chronique uruguayenne dans laquelle je vais tenter de vous faire découvrir un petit peu mieux ce pays qui m'est cher. Alors pour cette première, on va être un petit peu scolaire tant le pays est mal connu en France. On sort son atlas, à la page de l'Amérique du Sud, on repère le Brésil. Vous voyez le gros truc là sur la droite ? On descend vers le sud en suivant la côte atlantique, et avant d'arriver en Argentine, votre doigt doit couvrir un pays entier, et c'est ça l'Uruguay. Un petit état côtier donc, coincé entre deux géants, si petit que ses habitants l'appellent parfois le Paisito, le petit pays, et que certains Argentins pensent qu'il ne s'agit en fait qu'une de leurs provinces. Mais non, c'est bien un pays indépendant, appelé très officiellement República Oriental del Uruguay. Et si votre atlas est assez précis, vous distinguez peut-être ce qui forme la frontière sud entre Uruguay et Argentine, un énorme estuaire que l'on nomme Rio de la Plata, fleuve de l'argent. Vous voyez peut-être aussi que les deux capitales des pays sont situées de part et d'autre de l'estuaire, Buenos Aires au sud, Montevideo au nord. Cependant, si une frontière sépare les deux pays, beaucoup de choses les rassemblent. La population, par exemple, cette partie de l'Amérique latine, connu une forte immigration européenne à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et donc l'influence des cultures amérindiennes y est beaucoup moins forte que dans d'autres pays d'Amérique latine. La langue aussi, dans la province de Buenos Aires et en Uruguay, on parle une variante de l'espagnol qu'on appelle le Rio Platense, en référence encore une fois au fameux fleuve, et qui se distingue de l'espagnol ibérique peut-être plus que n'importe quel autre espagnol des Amériques. Et alors, bien sûr, dernier trait commun aux deux rives, patrimoine mondial immatériel de l'humanité, l'incontournable, le monumental tango. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur ces différents points, je voudrais d'abord reparler un petit peu de cet estuaire. Il forme autant une frontière qu'une connexion entre les deux pays. Il est vaste de plus de 200 km au plus large, autant dire qu'à côté la Gironde passe pour un ruisseau, et il est issu de deux énormes fleuves, le Paraná et l'Uruguay. Et oui, l'Uruguay, avant d'être un pays, c'est un fleuve. D'ailleurs, on le confond souvent avec le Paraguay parce que ça sonne un peu pareil. Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose. Le Paraguay aussi, c'est un fleuve. En fait, avant que les Européens arrivent dans la région, il y avait des gens qui vivaient ici, les Guarani. Et en Guarani, Gué, ça veut dire, eh bien devinez quoi, fleuve, bien sûr. Uruguay serait donc, d'après les poètes, le fleuve des oiseaux colorés. C'est beau, peut-être un petit peu trop beau pour être vrai. Si on étudie bien la question, il existe un oiseau qu'on nomme effectivement Uru en langue Guarani, mais il n'est pas très coloré. On va quand même garder cette version, assez typique du lyrisme uruguayen et tellement plus charmant que la version pour laquelle l'Uruguay serait en fait le fleuve des escargots. Alors croyez pas pour autant que l'Uruguay c'est le pays des Amérindiens, car si on a gardé quelques noms poétiques, on s'est bien passé de leurs auteurs. Les Charrois, premiers habitants du pays, furent entièrement exterminés au 19e siècle, et les populations actuelles de l'Uruguay descendent donc de colons majoritairement espagnols et italiens qui arrivèrent à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il y a une blague d'ailleurs à ce sujet en Amérique latine, les Américains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas et les Uruguayens descendent du bateau. Les Uruguayens ne sont pas très nombreux. 3,5 millions, majoritairement urbains, Montevideo rassemblant à peu près la moitié de la population. Il n'y a pas de montagne non plus en Uruguay. Et oui, si vous regardez votre atlas, vous voyez que les Andes sont quand même à 1500 km à l'ouest. Avec un point culminant à 514 mètres, autant vous dire qu'on skie pas tous les jours en Uruguay. Et les Uruguayens, jamais à court de métaphores poétiques, disent que leur pays ondule doucement. Voilà, c'est beau encore une fois. Alors niveau climat, c'est assez banal aussi, hein. C'est un climat qu'on appelle subtropical, mais qui en fait est assez tempéré, océanique. Il y a quatre saisons, comme en Europe, seulement qu'elles sont à l'inverse. Et oui, je sais, c'est décevant, hein. C'est vrai que quand on annonce son départ en Amérique latine à ses amis en Europe, hein, les gens s'imaginent tout de suite les plages de cocotiers, la jungle, la brume qui s'accroche sur les pics escarpés. Et la déception est grande, hein, quand arrive la carte postale avec une vache dans un pré. Et oui, parce qu'un des grands symboles uruguayens, c'est la vache. Quatre fois plus nombreuse que les humains aujourd'hui. Et ça a été aussi la première européenne à s'établir durablement en Uruguay. La vache, quoi. Aussi incroyable que vrai. Et tout dans le pays fut fait pour qu'elle se sente chez elle. En fait, plus qu'à chercher à l'acclimater à l'Uruguay, on a acclimaté l'Uruguay à la vache. Il ne reste que très peu de montées nativo. Hein, les bois touffus, faits d'arbustes épineux et peuplés de jaguars que nous décrivèrent les premiers explorateurs. Au fil des siècles, on a défriché tout ça et à la place, on a planté des herbes, notamment venues d'Afrique, pour que la reine vache prospère en son nouveau royaume. Pendant longtemps, elle fut la seule source de richesse et en bon pays colonisé, l'Uruguay articula toute son économie autour d'une campagne entièrement dédiée à l'élevage extensif et une capitale portuaire dédiée à son exportation. L'autre soir encore, on était dans le centre de Montevideo avec des amis et d'un seul coup, on se regarde tous d'un air dégoûté, il y a une odeur d'étable qui nous monte au nez. On se retourne dans tous les sens pour chercher d'où ça vient, jusqu'à ce que l'un de nous comprenne qu'en fait, on était en train de charger des vaches dans le port de Montevideo, et que comme le vent soufflait du large, on était en train de tout prendre dans le nez. Et oui, je sais, c'est un peu décevant, hein. Vous attendiez la carte postale avec les cocotiers, et vous vous retrouvez avec un pays rempli de vaches et d'histoires funestes. Et oui, ici comme ailleurs, on a l'impression que rien n'a résisté à la colonisation, ni les populations, ni l'environnement naturel. Et pourtant, vous allez voir, j'espère, en tout cas à travers ces chroniques, qu'en s'approchant d'un petit peu plus près, on découvre que quelque chose a survécu. Que ces Uruguayens qui nous ressemblent tant ont en fait une histoire qui leur est propre et que des vestiges de culture précolombienne subsistent dans leurs gestes quotidiens. Et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler pendant ces quelques chroniques. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez ranger vos atlas et vos stylos et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Nos vemos.
No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Canal Sud 92.2 FM, FME, canalsud.net.
On vient d'entendre donc la première chronique uruguayenne d'Adrian. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine. Ce sera consacré au maté, une boisson bien connue. Hein. Et alors, ce qu'on vient d'entendre, c'était Alfredo Zitarrosa. Le morceau s'appelle Pal que se va. Et alors, Alfredo Zitarrosa, c'est le grand auteur, compositeur populaire uruguayen des années 60-70. Incontournable, hein, il puisa et réhabilita les musiques folkloriques de tout le cône sud. Alors communiste, il a été exilé par la dictature. Alors c'est un petit peu, nous dit Marot, hein, qui a choisi cette musique et qui a choisi certains des morceaux qu'on entendra après la chronique d'Adrian chaque semaine. Elle nous dit c'est un peu le Jean Ferrat local, cet Alfredo Zitarrosa. Le morceau qu'on a entendu, Pal que se va, évoque dans un langage très populaire l'exode rural, mais aussi du coup un autre niveau de lecture, l'exil en général. On rappelle que l'Uruguay, c'est un pays à la fois d'immigrants et d'émigrants.